interessante. Il punto è dato una risposta importantissima, cioè il principio della libertà va benissimo, tutta una serie di indicazioni, nell'ambito delle quali combinate stesse no, si devono vedere ciascuno. Questo è una posizione, ho fatto un'indicazione non venivano da questa lista di misure, ma gente che viveva nell'Ottocento e ha contato con tutti quello che è questo non condannato. Tra l'altro dirò una particolarità come Afrodito, della Mirafiori, non è andata. Perché per un francese è incrociato. Cioè bisogna trovare dei nomi italiani che potessero essere pronunciati da gente non italiana. Questo è curioso, ma stiamo molto importante. Mirafiori è per esempio un nome pronunciato. Tamme invece è un nome pronunciato. Sapete, bisogna già dire uno di questi parametri era questo. Lei ci chiede i nomi che non siano più di due sillabe e che non abbiano per esempio due solo consonanti. Si diceva con questa certezza. Cioè dare la possibilità a acquirente no, di denominare correttamente no, in modo scelto il proprio prodotto senza un grafone di fiorini, per vedere se non è che difficoltoso il rapporto no, tra il cliente e il venditore, questo è per rispondere alle persone. E direi che ci faranno di essere bene a avere, non so, forma la parte di
concetto.
E loro capiscono il concetto, spesso si faranno. È interessante come si può fare questo parametro che sarebbe estremamente distruttivo, perché le persone grandi di fronte di depotentrici, ma sul piano appunto della nominanza, no? Della nominanza di questo. Non è una nominanza casuale, è veramente motivata, è estremamente scientifica.
E a proposito di analogico e digitale, si può dire appunto che i nuovi nomi, per esempio, sia delle automobili Fiat sia delle Alfa Romeo vengono fuori da un programma dato a un elaboratore elettronico che tira fuori un elenco di nomi, ciascuno dei quali corredato da numeri che indicano il valore del nome rispetto a varie caratteristiche, sia sul piano semantico sia sul piano
espressivo. La Fiat esiste sul concetto di capello
ma sì, no, in pratica succede che vengono fuori questi dati dagli elaboratori elettronici, poi i dirigenti che sono ancora in vecchia maniera dicono sì, vabbè, però è più bello quell'altro nome di gruppo.
La Università di Arena non è un un'università di Roma che è di che non conosce la parte dei nomi di storia, no? Vittoria, una questione che sarebbe stata, è se vedete proprio di comprensione, cioè dei nomi di Università di Arena, di soggetti, non è pas marché, c'è-à-dire un vostro guerra, in sorta di questione sulle scelte dei nomi, dei profili, soit des expériences qui ont beaucoup existé, où on dirait, soit une inadéquation. Je sais pas si ça serait du côté linguistique, du côté sémantique, du côté de l'objet. Est-ce que vous avez réfléchi dans votre travail sur la non-adéquation entre un nom et un produit qui ne marchera pas? Il y a des gens qui viennent à l'esprit, par exemple. Est-ce que vous avez travaillé
J'ai deux exemples, un sur le côté sémantique, un sur le côté expressif. Deux exemples italiens, je m'excuse. Qui ont été considérés négatifs. Un exemple est Alfa Sud, une voiture construite dans le sud de l'Italie, ce qui, pour les Italiens, signifie que cette voiture ne marche pas. Et le nom allemand, qui en Italie est absurde, qui est le nom de la voiture Jetta, Jetta, en tout cas en italien, où on le prononce Jetta, ou on le prononce Jetta, on peut choisir, mais le résultat est toujours négatif.
Ça fait comme une analyse, on va faire pour vous montrer que le pavillon, ce qui a effrayé le client, etc. Chaque objet pris dans la pure après, il y aura un objet signifiant et on prend un sens intérieur. Ce que je demandais, c'est est-ce que ça me lance, c'est un exemple, qui est quelque chose qui ne marche pas à ce nom. Est-ce qu'on a dans une langue donnée, dans un corpus défini, des exemples de sorte significative, pas simplement d'une référence, pas simplement d'une vue collective, de choses qui auraient à s'enfuir.
Par exemple, on pourrait étudier ce qui arrive quand on emploie un même nom pour des objets de caractères différents. Par exemple, en Italie, il y a le cognac qui s'appelle Napoléon. Et bon, ça marche sans doute. Et puis il y a le sardine qui s'appelle Napoléon. Et ça, on ne voit pas ce que ça peut signifier. C'est un exemple tout à fait évident, mais qui pose le problème du parcours sémantique que le destinataire doit accomplir. Il y a évidemment des parcours possibles dans le cas de Napoléon comme nom de cognac. Ce parcours est possible, donc l'objet reçoit des valeurs en plus de ce qu'il aurait. Dans le cas de Sardine, cela n'arrive pas, alors le nom reste seulement quelque chose, une simple dénomination sans aucun sens.
Volevo dirti anch'io qualcosa. Tu hai parlato del caso Ventana. Ora hai detto quali sono le associazioni che da Ventana possono venire. Io ricordo però che lo slogan con cui questa compagnia turistica ha incominciato a diffondersi era Ventana, una finestra sul mondo, cioè partiva proprio dal significato spagnolo. Non so se questa ditta sia spagnola o abbia particolari legami con la Spagna o con l'America del Sud, però è certo che loro sono proprio partiti e difatti anche nelle illustrazioni si vede proprio una finestra con un paesaggio dietro. Però partendo da questa osservazione, volevo appunto chiederti se in queste tue ricerche tu hai tenuto presente il lavoro che fanno i pubblicitari, che sono ormai una categoria emergente e ricchissima, dato che sono quasi sempre loro che inventano i nomi dei prodotti e che cercano già anche di prevedere le eventuali reazioni del pubblico. I pubblicitari hanno anche delle riviste, io ne ho visto un numero di una che ha incominciato a uscire un anno fa a Milano, fatta benissimo, dove studiava per esempio in un lungo articolo tutte le denominazioni dei caffè in grani, e cercava di discutere la maggiore o minore efficacia della presentazione di questi caffè e dei nomi. Tra l'altro il nome, lo slogan e la presentazione spesso vengono concepiti assieme, anche se poi il nome di solito dura di più, perciò viene poi applicato in vari slogans o in varie presentazioni, però in origine credo che sia un contesto ampio, non si inventa il nome, ma si inventa già il nome in rapporto con uno slogan, in rapporto con una campagna pubblicitaria.
Beh sì, certo è molto interessante ciò che i pubblicitari possono dire, visto che ovviamente sono fino ad ora coloro cui principalmente è stata affidata la creazione dei nomi. In generale, per quel che conosco, però, ciò che i pubblicitari possono dire per il semiologo è più interessante come oggetto d'analisi, cioè come dati da introdurre nella sua analisi, che non come pezzo di teoria che si possa prendere. Questo non solo per il fatto che i pubblicitari non sono semiologi, non usano certe categorie, ecco, ma diciamo la verità, la maggior parte dei pubblicitari giocano molto su una visione della creazione fantastica di tipo ottocentesco, dove, come del resto si insegna nei corsi di pubblicità, ci si sveglia al mattino con l'idea che si è formata durante la notte, non si saprà mai come, e quello è il nome migliore, mentre il nome su cui si lavora in maniera più o meno scientifica si ritiene che venga poi un nome brutto, un nome artificioso. Quindi ecco, c'è poi invece tutto il lavoro fatto a posteriori, cioè l'analisi del perché certi nomi sono belli e del perché certi nomi sono brutti, cosa che tra l'altro viene fatta anche di regola con le inchieste di mercato. Un nome non viene posto sul mercato prima di avere fatto un'inchiesta presso un rilevante campione di pubblico, e allora lì è molto interessante perché è è altrimenti difficile prevedere, per esempio, che vengano fuori certe associazioni negative che uno a prima vista non vedrebbe, che certi nomi siano più memorizzabili di altri, eccetera. Ecco, allora, magari soprattutto questo secondo aspetto può essere molto interessante.
Grazie. C'è ancora qualcuno che... Sì.
No, posso vedere? Io ho parlato di uno di loro che aveva una comunità che è tutta la parte che lui è rimane in nome città universitaria per la politica. Vuol dire, se esiste una strategia che permette una certa risultanza, una comunità creativa che potrebbe piacere anche se apporto di differenza, proprio perché porta un discorso di responsabilità positiva di qualcuno che la società
e beh, credo che si tratti di un calcolo abbastanza delicato, nel senso che può essere conveniente dare un nome che non sia un nome ovvio, no? Che si riferisca a caratteristiche troppo evidenti di questo prodotto, tanto più se sono caratteristiche generali che questo prodotto in tutte le sue versioni concorrenti ovviamente possiede. Conviene dare un nome lontano, che sia lontano, no? In qualche misura dall'universo semantico dell'oggetto. E la misura di questa lontananza, ecco, deve essere calcolata in maniera molto complicata, insomma. Ci si lancia anche un po' nel...
No, perché adesso lo so, se c'è qualcuno che si fa la volta o per la scienza di determinati tipi di ricerca, cioè, in meglio di non per la scienza. Però,
sì, beh, adesso poi sulla consapevolezza di chi lo crea, ecco, è un altro discorso, però da un punto di vista teorico il nome ottimale deve essere situato a una certa distanza, ma non deve essere troppa, altrimenti il percorso non viene più compiuto, non deve essere troppo poca. Però è chiaro che poi dipende per esempio molto dal tipo di prodotto. Se noi parliamo i nomi di prodotti di prestigio, come ad esempio i profumi, ecco, queste operazioni sono molto più raffinate, la distanza è molto più grande, il nome del profumo colpisce molto di più, ci vogliono molto più operazioni per riuscire a capire perché è stato usato quel nome. Probabilmente se uno mettesse in circolazione nomi con caratteristiche analoghe per prodotti d'uso comune, detersivi, alimentari, eccetera, la cosa fallirebbe completamente perché nessuno si impegna nella decodifica di questo nome nella stessa misura.
Ci sono altri paioni.
Ovviamente la cosa che dice che dice Dio si può nominare solo in due modi, o non è più tanto possibile, oppure come la sociale in cui le piante si siano No, l'altra cosa era, in fondo mi pare che la propria modalità del mondo ricorda un po' il discorso che dicevo, secondo me, ci sono nomi metonimici che mandano a una delle attribute che presentano la donna, da una attribute da me, poi sono un capo scientifico, non è una terza cosa è credo che quando parlare del nome che rinvia per un verso la comunità calogenica e per l'altro diciamo dobbiamo
da un lato soggetto come un progetto, come detersivo per esempio, la lava a quel detersivo particolare.
C'è un altro fatto da tenere conto, è un nome che è sempre un paradigma. Pensavo ad esempio all'oggetto, nel caso della pietra, la pietra si chiama Alfa Romeo, scoperta a Torino per le informazioni, ma viene raggiunta, non è raggiunta in Europa, cioè c'è una sono i paradigmi, una paradigma di maturità di noi rimasta, che si autogenera, credo che si potrebbe una serie, cioè, io non sono specialista.
Nel 2020, nei nomi del 2020,
sì, cioè, ci potrebbe dare una fondamentalista. Credo che il nome gioca anche all'interno, cioè una terza dimensione, il nome non c'è, al paradigma in cui si vede il risultato.
Ho fatto anche degli esempi e questo tra l'altro ci riporta poi al problema dell'immagine dell'azienda, che è diversa dalla questione dell'immagine del prodotto, cioè anche lì è un altro tipo di scelta, scegliere un nome che faccia vendere il prodotto, che lo renda simpatico, interessante, appetibile, oppure un nome che parli di chi ha dato il nome. Che dica per esempio che questa è un'azienda di buon gusto perché sceglie dei bei nomi, anche se poi rispetto al prodotto dicono poco. E questo è un altro tipo di opzione strategica.
Credo che la ipotesi logica, che per esempio il nome a destinazione di scelta, la pubblicità gioca proprio a sciogliere la fragilità della destinazione, cioè a investire il massimo di connotazioni sul nome di marca.
Questi nomi sono
di nome di che?
Questi nomi sono di regola nomi topicalizzanti, anche perché sappiamo nella costruzione di una frase il topic dipende dalla scelta di chi parla, non che sceglie l'argomento, mentre il comment viene sentito non come una scelta di chi parla, ma piuttosto come una constatazione di come stanno le cose nella realtà. Allora, il nome focalizzante parla dell'oggetto, il nome topicalizzante parla anche di chi dà il nome, no? Di chi sceglie quel nome.
Se non ci sono altre domande, ringrazio Guido Ferraro e invito Maria Teresa Piason a venire nella sua conferenza. Propria sacralità del testo, la preghiera.
Et qui ne connaissent peut-être pas très bien la Molière, ce qui est d'ailleurs leur droit. Le texte dont était pris les noms pas paralysés était un recueil de réflexions et de maximes de la fin du 7e. Son titre, les caractères, justifie l'œuvre en tant que traduction d'abord et continuation ensuite du livre homonyme d'un écrivain grec Théophraste. Et l'insère au marge de la littérature sapientale du siècle. Je dis au marge, vu le caractère concret, la déviation manifeste de la réflexion morale généralisante à la notation psychologique tournée souvent vers l'individu, que le titre même semble indiquer et que l'emploi du nom propre sanctionne. Le texte pourrait être défini hâtivement maniériste. Il accueille manifestement les plus importantes propositions formelles de son époque et du genre littéraire où il s'inscrit, entre autres celle du portrait. Né du besoin de littérature référentielle écrite et orale, la mode du portrait avec des noms fictifs tirés de la pastorale ou de la vie d'histoire se répand des romans aux réunions littéraires et mondaines du XVIIe. Par nom fictif, j'entends des noms tirés d'un registre de langue ou d'une culture étrangère au texte. La Bruyère, l'auteur dont des caractères, accueille toutes les suggestions des portraitistes, y compris celles des noms fictifs. Mais il écrit aussi des portraits sans nom et emploie des noms propres dans certaines réflexions morales. Donc, le décret zéro de la nomination existe, et nom propre et portrait ne sont donc pas strictement liés. Ils ne forment pas un sous-genre portrait nommé. Le nom a donc dans le texte un sens plus vaste que celui de ramasser sous un aspect totalisant les traits épars de l'individualité. En voilà donc pour le texte d'où ont été tirés les noms anarchistes. Ça va comme ça. En voilà donc pour le texte d'où ont été tirés les noms analysés, non sans souligner que sur 117 réflexions et maximes, il n'y a que 96 portraits nommés et 121 appellatifs, soit 217 noms propres, soit un nom toutes les 5 réflexions ou maximes, dont une fréquence basse, qui ne va pas sans étonner le lecteur moyen, connaissant surtout les portraits nommés, et qui ne va pas sans mettre en doute le sens sur le caractère général du texte que je tirerai. Mais enfin, on en discutera. Il s'agit ici de voir comment les noms dans les textes de caractère, comme dans tous les textes littéraires, je crois, sont des signes, c'est-à-dire des éléments du code linguistique et culturel ayant une partie conceptuelle commune et compréhensible par tous les usagers et responsable d'un travail de signifiance. Ce qui n'est pas étonnant. Enfin, je vous ai dit, comme dans tous les textes littéraires, les noms, je crois, au moins, les noms sont motivés. Il s'agit ici de voir comment le signifier, je l'appellerai rapidement comme ça, la source du nom, le signifier des noms est produit, d'où il vient, et comment il opère dans le texte, et si possible, quel est le sens de ce travail. Alors, nous opposerons pour le besoin de la cause. Ils ne sont pas tellement opposés. Enfin, nous distinguerons le travail du nom poétique et le travail du nom dans le texte sacré. Le titre, d'ailleurs, anticipait déjà un peu les conclusions. Eh bien, dans le nom poétique, le nom propre a un pouvoir d'évocation. Par pouvoir d'évocation, j'entends la capacité de produire du sens non justifié par les signes du texte. Un pouvoir d'évocation et un pouvoir de signification qui, lui, vient des valeurs contextuelles et des valeurs étrangères au texte. Dans le nom sacré, le nom a un pouvoir de signification qui lui vient uniquement des valeurs extra-textuelles. Donc voilà ce qui distingue le nom poétique du nom sacré. Le nom sacré n'aurait pas donc de pouvoir de signification lui venant des valeurs contextuelles. Il n'exploite donc pas les valeurs contextuelles. Eh bien, il s'agit maintenant de voir quelles sont les valeurs extra-textuelles qui sont responsables de la signification dans la nomination de la Bruyère. Les valeurs extra-textuelles dans les caractères de la Bruyère viennent de la mythistoire et de la langue classique, plus faiblement de la tradition contemporaine. Et nous verrons ensuite quel est leur travail dans le texte. Lorsque les valeurs extra-textuelles peuvent former des figures d'analogie avec des valeurs textuelles, c'est-à-dire nous retrouverions dans ce cas les mêmes sèmes dans le nom et dans le texte. Les sèmes contenues dans le nom passerait dans le texte, serait d'une manière ou d'une autre explicitement utilisée dans le texte. Je vous fais le premier exemple, le plus rapide, pour que vous compreniez le procédé. Dans le texte, on dit, mais vous avez Dracon, le joueur de flûte. Or, Dracon était le maître de musique de Platon. Et il est pris dans le texte, justement dans ses valeurs de maître de musique de Platon. Donc le texte dit, vous avez le maître de musique de Platon, le joueur de flûte. Vous avez le musicien, le joueur de flûte. Vous avez le musicien, le musicien. Vous voyez, la valeur sémantique exprimée est rebondissement, redondance dans le texte. Il suffirait, à la rigueur, le nom qu'on garantit. D'ailleurs, il suffira le nom qu'on garantit dans certaines figures. Et la vérité, la vraie parole, le sens du nom et du texte est ailleurs que dans le texte. Ceci pour justifier le procédé. Je vais vous lire seulement pour me justifier, mais pour arriver à cueillir davantage ce jeu qui me paraît assez intéressant. Je pense au nom Capis. On pense au nom de Capis qui est dans le texte un personnage qui s'oppose vainement aux autres. Capis qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire en bourg et rabutin résiste à la voix du peuple et dit tout seul que, etc. Eh bien, Capis qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire en bourg et rabutin résiste à la voix du peuple. Ce trait du texte résiste à la voix du peuple et une redondance. Pourquoi Capis était le seul Troyen qui se soit opposé à l'entrée du cheval de Troie. Il s'y est opposé, comme vous le savez bien, inutilement. Capis signifie, entre guillemets, signifie donc celui qui s'oppose en vain à la volonté de la multitude. Capis résiste à la voix du peuple, a donc comme sens celui qui s'oppose en vain à la vie de la multitude, celui qui résiste en vain à la vie et à la volonté de la multitude, résiste à la volonté du peuple et dit « mais enfin », etc. Vous voyez comme les mots du texte ne résonnent que, ne reproduisent que quelque chose qui existe ailleurs. Je vais vous lire un autre cas, c'est le cas de Ménippe. Ménippe qui est quelqu'un qui se fait beau avec les plumes de quelqu'un d'autre. Ménippe est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui, etc. Eh bien, Ménippe était un philosophe auquel on attribuait un tas d'ouvrages qu'il n'avait pas écrit. Le texte, et l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui, répète, retransforme, paraphrase quelque chose qui existe déjà. Xantippe, Émilie, etc., je vous fais grâce de tous les exemples, mais il y en a beaucoup, sont donc des paraphrases, pour ainsi dire, des vérités réexpliquées, des vérités reproduites, retraduites. La même figure a lieu lorsque le texte emprunte des noms pris d'une langue étrangère, enfin, des deux langues étrangères, des seules deux langues étrangères possibles, c'est-à-dire le latin et le grec. C'est le cas, je vous cite deux exemples parmi tant d'autres, d'Antagoras ou de Tryphon. De Tryphon, je cite un peu de mémoire, donc il y a des chances que je retouche un peu le texte. Tryphon, la Bruyère dit Tryphon qui a tous les vices. Eh bien, Tryphon signifie en grec le débauché. Donc, Tryphon qui a tous les vices, le débauché qui a tous les vices, c'est une synonymie du moins conceptuelle. Antagoras, encore, Antagoras plaide toujours, et il continuera à plaider toute sa vie. Eh bien, Antagoras, ça veut dire l'homme qui contredit, l'homme qui a toujours quelque chose à redire. Eh bien, l'homme qui a toujours quelque chose à redire a toujours quelque chose à redire. Encore une preuve que dans le texte, la parole présente n'est qu'un renvoi à une vérité absente. Encore une preuve de la dévaluation du texte. Il y a encore des cas où les noms renvoient à une clé et le personnage qui se cachait sous la clé avait des caractéristiques qui étaient analogues aux caractéristiques de la source. Amphion était la clé de Lully. Lully qui était musicien, Amphion était un musicien qui, dans la métamorphose d'Ovide, avec sa musique, enchantait tout le monde, même les dauphins, je crois. Donc, Amphion, le musicien, Amphion égale Lully, égale musicien. Dioniette était la clé pour le nôtre architecte du roi, Médioniette était un célèbre architecte de l'Antiquité. Donc, architecte d'Orient, ça veut dire architecte répété deux fois. Le jeu, dans ce cas, le jeu est rhétoriquement faible parce que est immédiatement dévoilé, étant donné que la clé était connue à l'époque de la Bruyère par tout le monde. Donc, les figures, dans les figures de l'analogie explicite, le sens passe de la source au nom, du nom au texte. Qui le dit enfin, mais qui le dit sans le dire, c'est-à-dire sans l'énoncer en parole vraie, en parole ayant un fondement, parce qu'il a été déjà dit par la source et reçu par le nom, qui est en ce cas matière inerte, qui est là pour recueillir une vérité qui est, qui existe ailleurs. Le texte est donc une paraphrase du sens vrai, qui est déjà formé, immobile. Le nom est le lieu de passage, le lieu qui permet le passage de la vérité. Il y a des cas où la source, les valeurs sémantiques de la source sont employées antiphrastiquement, si le verbe existe, de manière antiphrastique. Et dans ce cas, l'ironie est déjà une figure qui renvoie à des données extratextuelles. Et le recours à la source du nom est moins étonnant, mais il est obligé. Ce qui est étonnant, au contraire, est que l'on n'ait jamais opéré ce renvoi à l'entrée propre, du moins. Ce renvoi qui est pourtant nécessaire pour la lecture correcte du caractère, et je mets correct entre guillemets, étant donné qu'il n'y a pas les deux corrects, pour la lecture philologiquement correcte, voilà, du caractère. Je vous donne des exemples d'emploi ironique de la source. Comme d'habitude, je cite de mémoire ce qui paraphrase peut-être un peu, retouche un peu le texte, mais passera quand même. Alors, la voyelle parle de Philémon et dit « L'or éclate sur les habits de Philémon ». Eh bien, Philémon était le mari de Baucis, le couple Philémon-Baucis était ce pauvre couple démuni de tout, mais non de simplicité et de cordialité, tel à recevoir les dieux qui sont allés frapper à leur humble chaumière. L'or, lisez le texte dans ce sens, l'or éclate, et puis il y a encore un tas de scènes de richesse et d'orgueil dans le texte. Eh bien, l'or, la richesse et l'orgueil, éclate sur les habits de ce pauvre humble personnage, et vous aurez en entier l'ironie. Encore, Périandre a une demeure superbe, sa femme a des brillants qui font la jalousie, qui font la jalousie de toutes les voisines, etc. Il y a un tas de marques de luxe, un tas de scènes de luxe dans le portrait de Périandre. Périandre était le tyran Corinthe qui était célèbre pour sa sagesse, pour sa pauvreté, pour son intégrité morale. Eh bien, lisez le texte dans ce sens et vous verrez que la demeure superbe, les brillants, la femme, tous les signes de richesse ne sont que ironie sur le dos de ce pauvre Périandre. Le même effet est obtenu par l'emploi d'un signifié tiré du grec ou du latin. Par exemple, Adraste, qui suit la mode, qui était libertin et qui poursuivre la mode est même devenu dévot, eh bien, c'est Adraste qui change donc d'opinion, et d'une opinion aussi fondamentale qu'elle concerne le choix de la vie quotidienne. Adraste qui change donc si subitement et si drastiquement de vie. Adraste est l'immobile, celui qui ne bouge pas, Adrastos. Encore, Eutyphron, qui est si mauvaise langue, si méchant pour les autres, est le sincère, celui qui est bon, bénévole. Donc, le texte lu comme nous le gars, à ce propos, je vous cite que, une antonomase intéressante, j'espère que ce ne sera pas une faute d'imprimerie de mon texte. Le monde est plein de typhons, dit la Bruyère, de typhons avec un S du pluriel. Ça ne m'était jamais arrivé de voir une antonomase exploitée jusqu'aux marques grammaticales. Eh bien, pour en revenir à mon cher Thoré, le texte lu comme nous le lisons aujourd'hui perd au moins une dimension fondamentale, celle de l'ironie, et naturellement celle qui lui vient de la double épaisseur du nom. Il faut donc relire au moins les textes ironiques. Sans cela, il y a une très grosse perte dans le texte. Mais il y a des cas plus intéressants où il faut vraiment recourir à la source du nom. Ce sont, vous voyez, ces figures d'analogie, au fond, à part le fait de l'ironie, qui prive vraiment le texte d'une dimension indispensable. Mais ces cas d'analogie, ces cas où le texte était un rebondissement du sens à source, peuvent ne pas être lus ou perdent évidemment une dimension du texte qui n'est pas indispensable. Alors qu'il y a des cas où l'ignorance de la source fait vraiment perdre toute l'épaisseur du texte, à mon avis. C'est le cas où le sens de la source est quand même utilisé dans le texte, où le texte utilise le sens de la source, mais il l'utilise comme sens implicite. On est donc obligé de retourner à la source qui contient quand même un sens que donc le texte se sert. Dans les cas examinés jusqu'à présent, le sens qui venait de la source est passé à travers le nom, rebondissait dans le texte, qui était ainsi l'explicitation, la concrétisation d'un savoir fixé ailleurs. Mais reproduit tout de même dans le texte à travers cet intermédiaire qu'est le nom, cet intermédiaire, ce lieu de passage qu'est le nom. Et bien, nous passerons maintenant à examiner le cas où le texte, tout en utilisant les sèmes du nom, ne le reproduit pas ouvertement. Le nom, en ce cas, est le terme, la marque de renvoi vers la source. Le nom ne signifie pas ouvertement, il renvoie vers un lieu où la signification est déjà prête, déjà formée, et déjà fixée, immobilisée même, puisque ce lieu est à l'abri de tout usage, la métistoire classique, la langue des langues classiques. Eh bien, nous prenons par exemple le cas de Dave. Alors, je cite encore de même, Dave, la Bruyère dit, Dave, cet homme... Ah non, attends. Cet homme pour qui vous quittez Socrate et Aristide, Dave, enfin. Cet homme pour qui vous quittez Socrate, disait un honnête homme, Socrate et Aristide disaient des honnêtes gens, Dave, enfin. Eh bien, Dave est un nom d'esclave chez Plante. Relisez le texte. Cet homme pour qui vous quittez Socrate et Aristide, des honnêtes gens, cet esclave, cet ancien esclave, enfin, cet esclave. Eh bien, là, vous voyez, le texte, je vous l'ai dit, je pourrais vous lire tout le texte, mais ça va paraître trop long. Le texte n'utilise pas des sèmes d'esclavage ou d'origine humble. Mais il est incompréhensible si on ne revoit pas, si on ne connaît pas quel est ce personnage de Dave. De même, le sens explicite, le sens implicite est utilisé ironiquement. Dorus passe en litière par la voie appienne. Eh bien, ce grand personnage qui passe en litière par la voie appienne est le personnage qui porte un nom de Luc chez Terence. Lisez. C'est Luc qui passe en litière par la voie appienne et vous aurez une autre dimension du texte. Léandre, il y a une petite comédie à propos de Léandre, le mari mange des bateau, des dons faits par Léandre, du gibier, des truffes, et dit, vous voyez comme c'est exquis, eh bien imaginez-vous que ça ne me coûte qu'un grand merci, ça vient de Léandre. Eh bien si vous pensez que Léandre est le protagoniste d'une célèbre histoire d'amour, toujours dans les Métamorphoses, vous comprendrez quel est le caractère de pourquoi Léandre avait intérêt à faire des cadeaux au mari de la dame qui n'est pas nommée dans le texte, mais dont il était probablement l'amant. Donc, le sens, le recours aux valeurs extra-textuelles connaît le même, porte au même aplatissement, à la même annulation du texte, si on n'a pas recours aux valeurs extra-textuelles. Et même si on a recours aux valeurs extra-textuelles, disons que ce texte est pauvre chose. Ce texte n'est là que pour supporter le poids du nom. Le texte renvoie donc sans cesse au nom, lequel renvoie à la source. Le nom est chargé d'un sens implicite, le texte est débiteur vis-à-vis du nom, le nom est débiteur vis-à-vis de la source, qui, elle, signifie « c'est », mais n'est pas là. Il y a une absence significatrice qui domine, qui régit le texte, dont le nom est encore une fois le lieu de passage. Donc, le texte est impuissant, le nom est à la fois puissant, puisqu'il est doué d'un sens, mais d'une puissance limitée, parce qu'il est doué de ce sens. Il est matière inerte qui renvoie à un sens uniquement. Il est inutile que je vous rappelle ici la richesse des sens qu'éveille le nom poétique. Ce qui me paraît indispensable à retenir est que tous les nombres de caractères sont motivés, qu'ils se servent de la source d'où ils tirent leur motivation comme de la partie conceptuelle de ce signifiant muet et de ce lieu de passage qu'elle l'emporte, que ce signe nouveau agit sur le texte, qu'il explicite ou l'emploie comme implicite. Dans tous les cas, le texte trouve son complément ailleurs. Son sens n'est donné qu'à qui sait avoir recours à la source vraie du savoir. Le sous-entendu, l'implicite, le recours constant à des données extra-textuelles ou universellement connues et fixes sont des traits répandus dans la culture de l'époque qui ne veut que représenter, reproduire des objets culturels portant les traces de, renvoyant à. Mais l'allusion est figure trop faible et trop floue pour expliquer le sens de ces procédés. L'allusion crée une ombre, elle ne renvoie pas. Quelquefois d'office, comme c'est le cas ici, à une chaîne conceptuelle qui devrait être solidement construite et repérable automatiquement si elle sert de support à tous les noms. Toute culture close connaît les phénomènes de code culturel ou symbolique présents sous le code linguistique qu'il n'altère pas et lisible uniquement par ceux qui possèdent la même culture. Mais ici, ce code second, qui est au fond l'induction d'un signifié animant des traits muets, dirige, oblige, canalise cette animation et semble avoir un sens précis. Si on compare avec ce procédé, avec la liberté du procédé, si ce procédé onomasiologique, avec la liberté du procédé sémasiologique, ou mieux, avec l'anarchie proliférante du signifiant poétique, qui se déchaîne avec le silence du nom propre, on se rend compte de l'étroitesse du jeu qui permet cet enrichissement contrôlé, cette épaisseur exactement calculée que la bruyère a imposée au nom propre. L'antonomase et l'allusion sont donc des figures trop faibles, et les figures formées par le signifiant sont de nature différente. L'analogie qui me paraît plus pertinente est le recours au statut du nom propre dans le texte sacré. Dans le texte sacré, le nom propre est toujours enrichi d'insignifié pris dans la chaîne conceptuelle du langage. Il faut que le personnage nommé soit récupéré dans le verbe, que rien n'échappe de lui à cette transcendance toute puissante, même pas quelques lettres désignant l'individu, les seuls dans la langue en mesure d'avoir un statut spécial. La tautologie est admise pour le seul nom de Dieu. Les autres marques d'identification de l'individu doivent coïncider avec les éléments d'une chaîne conceptuelle que l'idéologie façonne et fixe selon ses besoins et qui est censée être la vérité de tout élément du langage, y compris le nom. Le nommé homme est censé laisser transparaître et faire agir à travers la matière un sens fixé par la divinité. Emmanuel, Ismaël, Abraham, actifs dans les passages de la Bible, les sèment imposés à leur nom et font ainsi agir à travers la marque d'identification de leur personne qui devient par extension leur personne, les desseins de Dieu qui ont pris forme de signifié, de concept traduisible dans le langage et dans l'action. L'ismaélité, l'abrahamité agissent de même que, je ne sais pas, la charité ou la volonté, dans le sens que le texte porte leurs traces. Les capices, les ménites, les chitons, les ménalques, etc., du texte de la Bruyère, renoncent pareillement à la tautologie de tout nom propre, qui n'est pas faiblesse, qui est force du signifiant, si elle est exploitée comme dans le nom poétique, pour figurer comme marque de renvoi vers un lieu, le lieu où le sens se trouve déjà formé et figé, pour se servir d'un matériel inerte, prêt à accueillir, à contenir un savoir que le texte n'a éventuellement qu'à paraphraser. Comme dans le texte sacré, la parole ici n'est que représentation d'une vérité qui est ailleurs, et les vérités donc de valeur et de pouvoir autonome. Telle qu'une formule sacrée, le nom propre de la bruyère, le nom propre de la Bruyère se pose comme ambassadeur d'une puissance étrangère, ou du moins absente. Plus forte que l'antonomase et que l'allusion, plus étoffée que l'allégorie qui est renvoi obligé, cette parole montre ouvertement